Chapitre 3. Voulez-vous monter un instant ? Demanda Nathalie Aldine. J'hésitais devant l'heure tardive, mais elle insista. « Vous savez combien ma mère vous aime, » me dit-elle. « Je vais entrer une minute pour savoir comment va Madame Aldine. » Elle dit à mi-voix, comme se parlant à elle-même, « Voudra-t-elle croire seulement que je n'ai pu trouver M. Razumov, puisqu'elle s'est mise dans la tête que je lui cache quelque chose. Peut-être pourrez-vous la convaincre. » « Votre mère va se méfier de moi aussi, » observai-je. « De vous, pourquoi ? Que pourriez-vous avoir à lui cacher ? Vous n'êtes ni russe ni conspirateur. » J'avais trop vivement conscience de mon indignité d'Européen pour faire une objection, mais je résolus de jouer jusqu'au bout mon rôle de spectateur impuissant. Les roulements lointains du tonnerre descendaient le long de la vallée du Rhône, vers la ville endormie, vers la cité des prosaïques vertus et de l'hospitalité universelle. Nous traversâmes la rue en face de la grande porte sombre, et Mademoiselle Aldine ayant sonné, nous vîmes la porte s'ouvrir presque aussitôt, comme si la vieille bonne s'était tenue dans l'antichambre pour attendre notre retour. Sa figure pâle avait un air de satisfaction. « Le monsieur était là, » nous dit-elle, en refermant la porte. Nous n'avions pas compris. Mademoiselle Aldine se tourna brusquement vers la domestique. « Qui cela ?»« Herr Razumov, » expliqua-t-elle. Elle avait saisi assez de notre conversation pour comprendre le motif de la sortie de sa jeune maîtresse. Aussi, lorsque le monsieur lui avait dit son nom, l'avait-elle fait entrer sans tarder. « Qui aurait pu prévoir cela ? » murmura Mademoiselle Aldine, en fixant sur les miens le regard grave de ses yeux gris. Et moi, en me rappelant l'expression des traits du jeune homme, aperçu quelques heures auparavant, et son aspect de somnambule halluciné, j'éprouvais une surprise mêlée d'effroi. Avez-vous au moins demandé à ma mère l'autorisation d'introduire ce monsieur ? Demanda Mademoiselle Aldine à la servante. Non, je l'ai annoncé simplement, répondit-elle, étonnée de l'inquiétude parue sur nos visages. En somme, fis-je à mi-voix, votre mère était préparée. Oui, mais M. Razumov, lui, n'avait pas d'idée. On aurait dit qu'elle doutait de son tact. Interrogée sur la durée de la visite du jeune homme, la servante nous dit que der Herr n'était guère depuis plus d'un petit quart d'heure dans le salon. Elle attendit un instant, puis se retira, l'air intrigué. Mademoiselle Aldine me regardait en silence. « Les choses se sont arrangées de telle façon, dis-je, que vous savez exactement ce que l'ami de votre frère peut avoir à dire à votre mère. Et après cela, sûrement, nous restâmes silencieux, l'oreille tendue, mais aucun son ne nous parvenait à travers la porte close. » Les traits de Mademoiselle Aldine exprimaient une indécision douloureuse. Elle fit un mouvement comme pour entrer dans le salon, puis s'arrêta. Elle avait entendu des pas de l'autre côté de la porte. Cette porte s'ouvrit, et sans s'arrêter sur le seuil, Razumov sortit dans le vestibule. Les fatigues de la journée et la lutte qu'il avait soutenue contre lui-même l'avaient changé à tel point que j'aurais hésité à reconnaître le visage, qui, devant le bureau de poste, quelques heures auparavant, était bien effrayant déjà, mais tout différent. Il n'était plus aussi livide, les yeux n'étaient plus aussi sombres. Il n'avait plus leur regard de folie, mais la conscience d'un crime faisait peser son ombre sur eux. Je dis cela parce que, tout de suite, ce regard tomba sur moi, sans que rien montrât que le jeune homme me reconnut ou s'aperçût même de ma présence. J'étais seulement dans la ligne de ses yeux. Je ne crois pas qu'il eût entendu la sonnette, ou s'attendit à voir quelqu'un dans l'antichambre. Je suppose qu'il se préparait à sortir, et il ne parut apercevoir Mademoiselle Aldine que lorsqu'elle eut fait vers lui un ou deux pas. Il ne prit pas la main qu'elle lui tendait. « C'est vous, Natalia Viktorovna, vous pouvez être surprise à une heure aussi tardive. Mais, voyez-vous, je me suis souvenu de notre conversation du jardin. J'ai pensé que vous désiriez réellement que, sans perdre de temps, Alors je suis venu. Il n'y a pas d'autre raison. Je voulais dire, tout simplement, il s'exprimait avec peine, et je m'en aperçus en me souvenant des paroles qu'il avait dites au boutiquier. Il sortait parce qu'il avait besoin d'air. Si tel était son désir, il avait évidemment échoué piteusement. Les yeux détournés et la tête basse, il faisait des efforts douloureux pour proférer des paroles qui s'étranglaient dans sa gorge. Je voulais simplement dire ce que j'ai appris moi-même seulement aujourd'hui. Aujourd'hui. » J'eus, à travers la porte qu'il n'avait pas fermée, une vision du salon. Il était confusément éclairé par une lampe voilée. Les yeux de Madame Aldine ne pouvant supporter ni le gaz, ni l'électricité. C'était une pièce relativement grande, qui, à côté de l'antichambre très claire, se noyait dans une demi-obscurité avec des coins d'ombre dense. Sur ce fond de nuit, je distinguais la silhouette immobile de Madame Aldine, légèrement penchée en avant, et sa main pâle posée sur le bras du fauteuil. Elle ne faisait pas un geste. Devant la fenêtre, elle n'avait plus son attitude d'attente. Le store était baissé. Il n'y avait au dehors que le ciel nocturne et chargé de nuées d'orage, et la ville indifférente et hospitalière, froide et presque méprisante dans sa tolérance, respectable cité d'asile qui comptait pour rien toutes ses douleurs et tous ses espoirs. La pauvre femme avait la tête baissée. La pensée me vint au moment où, éternel spectateur, je jetais ce nouveau coup d'œil sur les coulisses, que le vrai drame de l'autocratie ne se joue pas sur la scène politique, et qu'il y a quelque chose de plus profond que les paroles et les gestes des acteurs. J'avais la conviction que, malgré tout, cette mère se refusait au fond de son cœur à renoncer à son fils. Plus que le deuil inconsolable de Rachel, sa souffrance était profonde et inaccessible dans son immobilité terrifiante. On aurait dit, à voir se détacher son profil pâle et incliné sur l'ombre indistincte de son fauteuil à haut dossier, qu'elle contemplait un objet placé sur ses genoux, une tête bien-aimée qu'elle y aurait posée. J'eus cette vision rapide, puis Mademoiselle Aldine passa près du jeune homme pour fermer la porte. Elle ne le fit pas, toutefois, sans hésitation. Je crus un instant qu'elle allait entrer près de sa mère, mais elle se contenta de jeter dans la pièce un regard inquiet. Peut-être si Madame Aldine avait fait un mouvement, mais non, cette figure pâle disait l'isolement effroyable d'un cœur qui souffre sans espoir. Le jeune homme, cependant, tenait les yeux fixés sur le sol. La pensée de redire l'histoire qu'il venait de raconter lui était intolérable. Il avait cru trouver les deux femmes ensemble. Alors, s'était-il dit, c'en serait fini pour toujours. « Il est heureux que je ne croie pas à un autre monde », songeait-il cyniquement. Seul dans sa chambre, après avoir mis à la poste sa missive secrète, il avait retrouvé un certain calme dans la rédaction de son journal particulier. Il sentait le danger de cette étrange faiblesse et y fait allusion lui-même dans ses notes, mais il ne pouvait renoncer à cette habitude qui l'apaisait et le réconciliait avec l'existence. Il écrivait donc, assis à la lueur d'une chandelle solitaire, lorsqu'il s'avisa qu'il ferait bien d'aller lui-même donner à ces dames l'explication de l'arrestation de Aldine, telle que la lui avait fournie Sophie Antonovna. Elle ne pouvait manquer d'en entendre le récit de quelque autre part, et son abstention paraîtrait singulière, non seulement à la mère et à la sœur de Aldine, mais à d'autres personnes aussi. Arrivé à cette conclusion, il ne se sentit aucune répugnance particulière pour la démarche nécessaire. Elle fut tourmentée bientôt par un désir angoissant d'en avoir fini. Il consulta sa montre. Non, en somme, il n'était pas trop tard. Les 15 minutes qu'il passa près de Madame Aldine furent comme une revanche de l'inconnu. Cette figure pâle, cette voix faible et distincte, cette tête d'abord tournée vers lui avec empressement, puis peu à peu retombée et revenue à son immobilité, le demi-jour paisible de la pièce où les paroles qu'il tentait de contenir résonnaient trop brutalement, tous ces détails l'avaient troublé comme autant de singularités imprévues. Il semblait y avoir aussi une obstination secrète au fond de cette douleur, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre, quelque chose au moins qu'il n'avait pas pensé rencontrer. Était-ce de l'hostilité? Peu importait d'ailleurs. Rien ne pouvait plus le toucher, et aux yeux des révolutionnaires, nulle ombre n'obscurcissait plus son passé. Cette fois, le fantôme avait bien été écrasé et gisait, impuissant et passif, sur le trottoir couvert de neige. Mais blanche comme le fantôme lui-même, et rongée de chagrin, la mère se dressait maintenant devant lui. Il en avait ressenti une surprise apitoyée, sans d'ailleurs y attacher d'autre importance. Qu'importaient les mères? Il ne pouvait secouer l'impression poignante qu'avait produite sur lui cette femme silencieuse et immobile, cette femme aux cheveux blancs. Mais il y avait une dureté méprisante dans ses pensées. Voilà bien les conséquences. Eh bien, après, suis-je donc sur un lit de roses, se disait-il, tandis qu'assis à quelque distance, il gardait les yeux fixés sur le visage douloureux. Il avait raconté tout ce qu'il voulait dire, et elle l'avait laissé parler sans prononcer un mot, en détournant peu à peu la tête. Lorsqu'il s'était tu, le silence était retombé pendant 5 minutes ou davantage. Qu'est-ce que cela signifiait? Devant l'inattendu de ce silence, il avait senti renaître en lui la colère, qui venait remplacer sa dureté de tout à l'heure, l'ancienne colère contre Aldine, réveillée par le spectacle de la mère du mort. N'était-ce pas une sorte de jalousie qui le pinçait au cœur? L'envie jalouse de ce privilège qui lui était refusé à lui seul entre tous les hommes? C'est l'autre qui avait trouvé le repos, et qui n'en continuait pas moins à vivre dans l'affection de cette vieille femme en deuil, dans la pensée de tous ces gens qui se posaient en champions de l'humanité. Il ne pourrait jamais se débarrasser de lui. « C'est moi seul que j'ai voué à la destruction », pensait Razumov. « Voilà où il m'a mené. Impossible d'en finir jamais avec lui. » Épouvanté de cette découverte, il se leva pour sortir de la chambre obscure et silencieuse, où silencieuse aussi restait assise dans son fauteuil cette vieille femme, cette mère. Il sortit sans un regard en arrière. Il fuyait véritablement. Mais, en ouvrant la porte, il se vit la retraite coupée. La sœur, maintenant. Il ne l'avait pas oubliée, mais il ne comptait pas la voir tout de suite. La voir jamais, peut-être. La présence de la jeune fille dans l'antichambre était aussi imprévue que l'avait été l'apparition de son frère. Razumov tressaillit comme un animal pris au piège. Il s'efforça de sourire, mais n'y put réussir et baissa les yeux. « Faut-il redire cette stupide histoire ?» se demandait-il avec un sentiment d'angoisse. Il n'avait rien mangé depuis la veille, mais n'était pas en état de rechercher la cause de sa faiblesse. Il aurait voulu soulever son chapeau et passer avec le moins de paroles possible. Mais le geste rapide de Mademoiselle Aldine pour fermer la porte le prit au dépourvu. Il se retourna à demi vers elle, sans lever les yeux, passivement, comme une plume emportée dans l'air agité. Elle revint aussi à son point de départ, et Razumov fit une volte nouvelle qui les ramena à leur position primitive, en face l'un de l'autre. « Oui, oui, » dit-elle hâtivement, « je vous suis très reconnaissante, Kirillo Sidorovitch, d'être venue tout de suite, comme cela. Seulement, j'aurais voulu... Ma mère vous a-t-elle dit ?»« Je me demande ce qu'elle aurait pu me dire que je n'ai su auparavant, » fit-il, manifestement pour lui-même, mais d'une voix parfaitement perceptible. « Je l'ai toujours su, » ajouta-t-il plus haut, d'un ton désespéré. Il laissa tomber sa tête. Il éprouvait une impression si intense en face de Nathalie Aldine qu'il savait trouver un soulagement dans un simple regard jeté sur elle. C'est son image qui le hantait maintenant et l'avait poursuivi avec insistance depuis qu'elle lui était apparue brusquement dans le jardin de la villa Borel, la main tendue et le nom de son frère aux lèvres. Sur le mur de l'antichambre, près de la porte d'entrée, il y avait une rangée de crochets, et contre la paroi opposée, une petite table noire et une chaise. Le papier, semé d'un dessin léger, était presque blanc. La lumière d'une ampoule électrique, juchée très haut sous le plafond, fouillait jusque dans ses coins nus, brutalement, sans ombre, cette boîte carrée et claire, et en faisait un théâtre étrange pour le drame obscur qui s'y jouait. « Que voulez-vous dire ?» demanda Mademoiselle Aldine. « Qu'est-ce donc que vous avez toujours su ?» Il leva un visage pâle, plein d'une souffrance inexprimée. Pourtant, le regard distrait de morne obstination, qui dans ses yeux frappait et étonnait l'observateur, commençait à disparaître. On aurait dit qu'il revenait à lui et reprenait conscience de l'ensemble merveilleusement harmonieux, des traits, des lignes, du regard, de la voix, qui faisait de la jeune fille, debout devant lui, une créature si rare, en dehors, pour ainsi dire, et bien au-dessus de toute notion commune de la beauté. Il la regarda si longuement qu'elle rougit légèrement. « Oui, que saviez-vous donc ? » répéta-t-elle, machinalement. Il réussit cette fois à grimacer un sourire. « Eh bien, en dehors d'une ou deux paroles d'accueil, je ne saurais dire si votre mère s'est même aperçue de ma présence. Vous comprenez ?» Nathalie Aldine fit un léger signe de tête. Ses mains tremblaient doucement à côté. « Oui, c'est à fendre le cœur, n'est-ce pas ? Elle n'a pas encore versé une larme, pas une seule larme. »« Pas une larme ? Et vous, Natalia Viktorovna, vous avez pu pleurer ?»« Oui, j'ai pu pleurer. Et puis, je suis assez jeune, Kirillo Sidorovitch, pour croire à l'avenir. Mais, quand je vois ma mère si affreusement bouleversée, j'oublie tout. Je me demande s'il faut éprouver de la fierté ou seulement de la résignation. Il est venu tant de gens pour nous voir. C'étaient de parfaits étrangers qui écrivaient pour nous demander la permission de venir nous présenter leurs hommages. Il était impossible de toujours garder notre porte close. Vous savez que Pierre Ivanovitch lui-même... Oh oui! On a fait montre d'une grande sympathie à notre égard. Mais il y a des gens qui exprimaient devant cette mort un enthousiasme trop manifeste. Et lorsque je restais seul avec ma pauvre mère, tout cela me paraissait faux. Cela ne valait pas le prix qu'elle avait payé. Mais dès que j'ai appris votre présence à Genève, Kirillo Sidorovitch, j'ai compris que vous étiez le seul être capable de venir à mon secours. En consolant une mère à qui l'on a pris son fils ? Oui, interrompit-il avec un accent qui fit ouvrir tout grand à la jeune fille ses yeux clairs et confiants. Mais encore faudrait-il être désigné pour ce rôle. Ne vous en êtes-vous pas avisé ? Il avait prononcé ces paroles sur un ton haletant qui contrastait avec la monstrueuse ironie qu'elle semblait impliquer. « Comment ? » murmura Nathalie Aldine du fond du cœur. « Qui donc pourrait être mieux désigné que vous ?» Il eut un mouvement convulsif d'impatience, mais sut se maîtriser. « Ah, vraiment ! Dès que vous avez appris ma présence à Genève, avant même de m'avoir vu. C'est encore une preuve de cette confiance. » Son ton se modifia tout à coup pour se faire plus incisif et plus détaché. Les hommes sont de pauvres êtres, Natalia Viktorovna. Ils savent mal inventer des sentiments inconnus. Pour parler à une mère de façon convenable, du fils qu'elle a perdu, il faudrait avoir quelque expérience des relations entre une mère et un fils. Et ce n'est pas mon cas, à vous parler franchement. Vous êtes tombé sur un homme dont nulle affection ne réchauffa jamais la poitrine, comme dit le poète. Ce qui ne signifie pas qu'il soit insensible, ajouta-t-il. En baissant la voix. Je suis certaine que vous n'avez pas le cœur insensible, fit doucement Mademoiselle Aldine. Non, mon cœur n'est pas dur comme un roc, poursuivit-il de la même voix de rêve. On aurait dit que ce cœur pesait comme une pierre dans la poitrine froide dont il avait parlé. Non, pas aussi dur. Mais comment manifester les sentiments dont vous me faites crédit? C'est une autre question. On ne m'avait jamais rien demandé de semblable. Personne ne paraissait se soucier de ma tendresse. Et maintenant, vous voici, vous, maintenant. Non, Natalia Viktorovna, il est trop tard. Vous venez trop tard, n'attendez rien de moi. Elle eut, malgré l'immobilité de Razumov, un léger recul, comme si elle avait surpris sur son visage une expression qui donnait à ses paroles un sens mystérieux, connu d'eux seuls. À mes yeux de spectateur silencieux, les jeunes gens apparaissaient comme deux êtres qui commencent à prendre conscience du charme magique dont ils ont été victimes dès leur première rencontre. Si l'un d'eux avait jeté les yeux sur moi, j'aurais doucement ouvert la porte pour m'esquiver. Mais ils ne me regardaient pas, et je restais immobile, toute crainte d'indiscrétion noyée chez moi dans le sentiment de notre prodigieux éloignement. J'étais si loin du sombre horizon des problèmes russes qui les tenaient captifs, si loin des limites mêmes de leurs regards et de leurs sentiments, si loin de la prison de leurs âmes. Franche et courageuse dans sa peine, Mademoiselle Aldine maîtrisa sa voix. « Que peut-il vouloir dire ? » demanda-t-elle, comme si elle s'était parlé à elle-même. « Je veux dire que vous vous êtes abandonnée à des imaginations vaines, tandis que moi je me suis contraint à rester dans la vérité des choses et les réalités de la vie, de notre vie russe. ces réalités que nous connaissons. Ce sont des réalités cruelles, murmura-t-elle. Et l'aide, ne l'oubliez pas, l'aide aussi. Regardez où vous voulez. Regardez près de vous, ici, à l'étranger où vous êtes, et puis regardez là-bas, le pays d'où nous sommes venus. Il faut regarder plus loin que le présent, répliqua la jeune fille, sur un ton de conviction ardente. C'est aux aveugles à le faire. J'ai le malheur d'être né avec mes deux yeux. Et si vous saviez les choses singulières que j'ai vues, des apparitions stupéfiantes et inattendues. Mais pourquoi parler de tout cela? Au contraire, c'est de tout cela que je veux parler avec vous, protesta-t-elle, avec une sérénité chaleureuse. Elle n'était pas émue par l'humeur sombre de l'ami de son frère, et ne voyait dans son amertume et ses colères contenues que les marques d'un esprit droit et d'une indignation généreuse. Elle sentait que ce n'était point un homme ordinaire et n'aurait peut-être pas voulu le voir différent de ce qu'il se montrait à ses yeux confiants. « Oui, avec vous tout particulièrement, insista-t-elle. Avec vous plutôt qu'avec tout autre Russe au monde. » Un faible sourire fleurit un instant sur ses lèvres. « Je suis comme ma pauvre mère, sous certains rapports. À moi aussi, il semble impossible de renoncer pour toujours aux chers morts qui, ne l'oubliez pas, étaient tout pour nous. Je ne veux pas abuser de votre sympathie, mais comprenez bien que c'est en vous seul que nous pouvons trouver tout ce qui reste de son âme généreuse. » Je regardais le jeune homme dont le visage n'avait pas eu un tressaillement. Et pourtant, même alors, je ne l'accusais pas d'insensibilité. Il était plongé dans une sorte de rêverie lointaine. Enfin, il fit un léger mouvement. « Vous partez, Kirillo Sidorovitch ? » demanda-t-elle. « Moi, partir ? Pour où ? Ah oui, mais il faut que je vous dise d'abord. » Sa voix s'était assourdie, et il se forçait à parler avec une répugnance visible, comme s'il se fût agi d'une chose dégoûtante ou mortelle. « Cette histoire, vous savez, l'histoire qu'on m'a contée cet après-midi, je la connais déjà, » fit-elle, tristement. « Vous la connaissez ? Vous avez donc, vous aussi, des correspondants à Pétersbourg ? » ?»« Non, c'est Sofia Antonovna, je viens de la voir. Elle vous envoie un salut amical, elle doit partir demain matin. » Il avait enfin baissé son regard fasciné. Elle aussi fixait les yeux sur le sol, et tous deux, en face l'un de l'autre, sous la lumière crue, entre les quatre murs nus, paraissaient sortis de l'immensité confuse des frontières de l'Orient, et venus là pour s'exposer cruellement au regard de mes yeux d'occidental. Et je les regardais. Qu'aurais-je fait d'autre? Je me sentais si totalement oublié par ces deux êtres que je n'osais plus faire un mouvement, et je me disais qu'ils devaient inéluctablement se rapprocher, la sœur et l'ami du mort. Les idées, les espoirs, les aspirations, la cause de la liberté, tous les sentiments exprimés pour leur affection commune pour Victor Aldine, victime morale de l'autocratie, les attiraient invinciblement l'un vers l'autre. L'ignorance même de la jeune fille et la solitude à laquelle le jeune homme avait fait une allusion si singulière devaient travailler dans ce sens. Je voyais bien d'ailleurs que tout était fait déjà. C'était trop naturel. Il était évident qu'ils avaient dû penser l'un à l'autre longtemps avant de se rencontrer. Le ferme éloge que dans sa lettre un frère bien-aimé accordait à ce seul ami avait exalté l'imagination de la jeune fille. Et pour lui, il avait suffi de se trouver en présence de cette nature exceptionnelle. Si l'on pouvait s'étonner, c'était de le voir rester sombre et fermé devant la cordialité d'un accueil si clairement exprimé. Mais il était jeune, et toute son austérité, tout son dévouement à l'idéal révolutionnaire, ne le rendait pas aveugle. C'en était fini de la période de réserve. Il faisait des avances à sa manière. Il n'y avait pas à se méprendre au sens de cette visite tardive, car ce qu'il voulait dire n'avait rien d'urgent. La véritable cause, je la sentais. Il avait pris conscience de son besoin d'elle, et c'est le même sentiment qui l'avait guidé, elle aussi. C'est la seconde fois que je les voyais ensemble, et je comprenais qu'à leur prochaine rencontre, je ne serais plus là. Ils pourraient se souvenir de moi ou m'avoir oublié, mais j'aurais virtuellement cessé d'exister pour ces deux jeunes gens. Toutes ces réflexions me vinrent à l'esprit en quelques instants. Cependant, Nathalie Aldin racontait brièvement à Razumov nos pérégrinations d'un bout à l'autre de Genève. Tout en parlant, elle levait les mains au-dessus de sa tête pour détacher son voile, et ce mouvement accentuait la grâce séduisante de son corps juvénile, revêtu d'un costume de deuil très simple. Dans l'ombre transparente que le bord du chapeau faisait tomber sur son visage, ses yeux gris brillaient d'un éclat attrayant. Sa voix, au timbre si peu féminin et pourtant si adorable, était ferme, et elle parlait rapidement, franchement, sans embarras. Comme elle invoquait l'état mental de sa mère pour justifier ses démarches, une contraction douloureuse altéra l'harmonie de ses traits confiants et nobles. Lui, d'ailleurs, avec ses yeux baissés, avait l'air d'un homme qui écoute un morceau de musique, plutôt que les paroles articulées. Et lorsqu'elle cessa de parler, il parut écouter encore, immobile, comme s'il eût été sous le charme d'un bruit séduisant. Il revint à lui pourtant, et murmura « Oui, oui, elle n'a pas versé une larme. Elle ne semblait pas entendre ce que je disais. J'aurais pu lui raconter n'importe quoi. On aurait cru qu'elle n'appartenait plus à ce monde. » Mademoiselle Aldine fit montre d'une détresse profonde. Sa voix sombra. « Vous ne savez pas jusqu'où elle en est arrivée. Elle s'attend maintenant à le voir. » Le voile glissa entre ses doigts, et elle se tordit les mains d'angoisse. « Elle finira par le voir, » s'écria-t-elle. Razumov redressa brusquement la tête pour attacher sur elle un regard prolongé et pensif. « C'est bien possible, » murmura-t-il d'un ton singulier, comme s'il avait donné son avis sur une chose toute simple. « Je me demande... » Il s'arrêta. Ce serait la fin de tout, sa raison sombrerait tout à fait, et son intelligence même disparaîtrait bientôt. Mademoiselle Aldine détacha ses mains pour les laisser pendre à ses côtés. « Croyez-vous ? » demanda-t-il d'un ton profond. Les lèvres de Mademoiselle Aldine étaient légèrement séparées. Il y avait dans le caractère du jeune homme quelque chose d'inattendu et d'insondable qui l'avait fasciné tout de suite. « Non, il n'y a ni vérité ni consolation à attendre des fantômes des morts, » ajouta-t-il, après un silence pesant. « J'aurais pu lui dire une partie de la vérité. Le désir, par exemple, de votre frère, de sauver sa vie et de s'enfuir. Cela, c'est un fait certain. Mais je ne lui ai rien dit. » Vous ne lui avez rien dit de cela, et pourquoi ? Je ne sais pas. D'autres pensées me sont venues à l'esprit, répondit-il. Il paraissait se surveiller attentivement. On aurait dit qu'il essayait de compter les battements de son cœur, mais ses yeux ne se détachaient pas un instant du visage de la jeune fille. Vous n'étiez pas là, poursuivit-il. Je m'étais décidé à ne plus jamais vous voir. Ses paroles semblèrent, pendant un instant, couper la respiration de Nathalie Aldin. Vous ? Comment serait-ce possible ? Oui, vous pouvez bien me le demander. Mais c'est la prudence, je crois, qui m'a empêché de parler à votre mère. J'aurais pu lui dire aussi que son fils, au cours de sa dernière conversation d'homme libre, avait fait allusion à vous deux. Cette dernière conversation, c'est avec vous qu'il l'a eue, interrompit-elle de sa voix profonde et émouvante. Il faudra quelques jours. C'est avec moi, en effet. De vous, il a dit que vous aviez des yeux de loyauté. Je ne sais pas ce qui m'a empêché d'oublier cette phrase. Elle signifiait qu'il n'y avait en vous ni artifice ni tromperie, pas de fausseté ni de soupçon, qu'il n'y avait rien dans votre cœur pour vous faire reconnaître un mensonge vivant, un mensonge actif, un mensonge parlant, si vous veniez jamais à le rencontrer. Que vous êtes une victime prédestinée. Ah, la suggestion diabolique !» Le ton convulsif et violent de ces dernières paroles montrait toute la peine qu'il avait à se maîtriser. Il était comme un homme qui, sur un sommet, veut braver le vertige et chancelle soudain au bord du précipice. Mademoiselle Aldine appuya sa main contre sa poitrine. Le voile qu'elle avait laissé tomber gisait à terre entre eux. Le mouvement qu'elle avait fait parut calmer Razumov. Il tint ses yeux fixés sur la main qui retombait doucement, puis les reporta sur le visage de la jeune fille. mais il ne lui laissa pas le temps de parler. « Non, vous ne comprenez pas ?»« Très bien. » Par un miracle de volonté, il avait retrouvé sa maîtrise. « Alors vous avez causé avec Sophie Antonovna ?»« Oui, Sophie Antonovna m'a dit. » Mademoiselle Aldine s'arrêta avec une surprise croissante dans ses grands yeux. « Celle-là, c'est mon honorable ennemi, » murmura-t-il, comme s'il s'était trouvé seul. « Elle m'a parlé de vous sur un ton parfaitement amical, » remarqua Mademoiselle Aldine, après un instant de silence. « C'est votre impression ? C'est la plus intelligente de tous, évidemment. Alors tout va aussi bien que possible. Tout conspire pour... « Ah, ces conspirateurs, » fit-il lentement, avec un accent de mépris. « Ils vous mettraient la main dessus en un rien de temps. Savez-vous, Natalia Viktorovna, que j'éprouve la plus grande difficulté à me soustraire à la croyance superstitieuse en une providence active ? Croyance irrésistible. Sans elle, il faudrait croire au diable personnifié de nos très simples ancêtres. Mais alors, il aurait exagéré, le vieux père des mensonges, notre patron national, notre dieu domestique que nous emmenons avec nous à l'étranger. Il a exagéré. Peut-être ne suis-je pas assez simple. Oui, c'est cela. J'aurais dû savoir. Et je savais. Ajouta-t-il sur un ton de détresse poignante qui m'accabla de stupeur. Cet homme-là est fou, me dis-je, très effrayé. Puis, immédiatement, je ressentis devant lui une impression très particulière, impossible à définir en temps ordinaire. On aurait dit qu'il venait de se poignarder dans la rue et était rentré nous montrer sa blessure. Mieux que cela, qu'il retournait le couteau dans la plaie et contemplait l'effet produit par son geste. Telle fut ma sensation exprimée en termes concrets. On ne pouvait se défendre d'une certaine pitié. Mais c'est surtout à Mademoiselle Aldine, déjà si atteinte dans ses affections profondes, qu'allait ma sollicitude émue. Son attitude, ses traits, exprimaient la lutte de la compassion avec un doute voisin de la terreur. « Qu'y a-t-il, Kirillo Sidorovitch ?» Il perçait une nuance de tendresse dans ce cri. Lui se contenta de la regarder, avec un abandon complet de tout son être, que, chez un amant heureux, on aurait nommé de l'extase. « Pourquoi me regardez-vous comme cela, Kirillo Sidorovitch ? Je suis venu à vous franchement. J'ai besoin en ce moment de voir clair en moi-même. » Elle fit une pause, comme pour lui donner l'occasion de prononcer une parole digne de la confiance exaltée qu'elle avait accordée à l'ami de son frère. Mais il gardait un silence impressionnant, comme s'il avait pris une résolution suprême. À la fin, Mademoiselle Aldine poursuivit d'un ton suppliant « Je vous ai attendu anxieusement, et maintenant que votre bonté vous a amené chez nous, vous m'effrayez. Vous avez des paroles obscures. On dirait que vous m'avez caché quelque chose. » « Dites-moi, Natalia Viktorovna, » fit-il enfin d'une voix étrange et sans timbre, « qui avez-vous vu là-bas ? » Elle tressaillit comme si son attente avait été déçue. « Où cela ? Chez Pierre Ivanovitch ? Il y avait M. Lespara et les trois autres personnes ? » « Ah oui, l'avant-garde, le triste espoir du grand complot, » murmura-t-il en lui-même. Les hommes qui veulent allumer la mèche et déchaîner une explosion, destinée à transformer de fond en comble la vie de millions d'autres personnes, pour permettre à Pierre Ivanovitch d'être à la tête de l'État. « Vous voulez me taquiner, » protesta-t-elle. « Notre cher mort me disait un jour de me souvenir que les hommes sont toujours au service de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, de l'idée. » « Notre cher mort, » répéta-t-il lentement. L'effort qu'il faisait pour ne pas laisser paraître d'émotion absorbait toute la puissance de son être. Il restait devant elle comme un homme à peine animé d'un souffle de vie. Ses yeux, creusés comme par une grande souffrance physique, avaient perdu tout éclat. « Ah, votre frère ! Mais dans votre bouche, avec votre voix, cela paraît. En fait, chez vous, tout est divin. Je voudrais connaître, jusque dans leurs profondeurs les plus reculées, vos sentiments, vos pensées. « Et pourquoi, Kirillo Sidorovitch ? » s'écria-t-elle, alarmée par ces paroles, sorties de lèvres étrangement inertes. « Ne craignez rien, ce n'est pas pour vous trahir. Alors vous êtes allé chez Pierre Ivanovitch. Et Sofia Antonovna, que vous a-t-elle donc dit ? peu de choses à la vérité. Elle savait que j'apprendrais tout de votre bouche, et n'a pris le temps de me dire que quelques mots. » La voix de Mademoiselle Aldine sombra, et elle resta un instant silencieuse. « L'homme s'est tué, paraît-il, » fit-elle tristement. « Dites-moi, Natalia Viktorovna, » demanda-t-il, après un silence, « croyez-vous au remords ?»«
Quelle question !»«
Comment pourriez-vous le connaître, vous » murmura-t-il, d'une voix sourde. « Il n'y a pas de remords pour des êtres tels que vous. Ce que je voulais vous demander, c'est si vous croyez à l'efficacité du remords. » Elle hésita, comme si elle n'avait pas compris, puis son visage s'éclaira. « Oui, certainement, » dit-elle, d'un ton ferme. Alors Zemianitch est absous. D'ailleurs, c'était une brute, une simple brute, un ivrogne. Un frisson secoua Mademoiselle Aldine. C'était, poursuivit Razumov, un homme du peuple, à qui les révolutionnaires venaient parler de sublimes espoirs. Il faut pardonner au peuple, et il ne faut pas croire non plus tout ce que l'on vous a dit là, conclut-il, avec une sorte de répugnance sinistre.
« Vous me cachez quelque chose, » s'écria la jeune fille.
« Croyez-vous, Natalia Viktorovna, que la vengeance s'impose comme un devoir ? Écoutez, Kirillo Sidorovitch, je crois que l'avenir nous sera clément à tous. Révolutionnaires et réactionnaires, victimes et exécuteurs, traîtres et trahis, la grande pitié s'étendra sur eux tous quand le jour se lèvera enfin dans notre ciel sombre. La pitié et l'oubli, sans lesquels il ne saurait y avoir d'union ni d'amour. Je comprends. Alors vous ne réclamez pas de vengeance. Pas la moindre vengeance, jamais. Un sourire amer parut sur ses lèvres décolorées. On dirait que vous représentez l'esprit même de ce généreux avenir. Il est étrange que cela ne facilite pas. Non. Mais supposons que l'homme qui a réellement trahi votre frère, Zemianitch eut une part dans cette trahison, mais une part insignifiante et tout à fait involontaire, supposons que ce fût un jeune homme bien élevé, un travailleur intellectuel, un esprit réfléchi, un homme à qui votre frère aurait pu se fier à la légère, peut-être. Mais pourtant, supposez, il y a toute une histoire dans ce que je vous dis là.
Et vous connaissez cette histoire?
Mais alors, pourquoi? Je l'ai entendu raconter. On y parle d'un escalier et même de fantômes. Mais qu'importe, puisqu'un homme est toujours au service de quelque chose de plus grand que lui-même, de l'idée. Je me demande quelle est, dans cette aventure, la plus grande victime.
Dans cette aventure, répéta Mademoiselle Aldine, qui semblait pétrifiée.
Savez-vous pourquoi je suis venu à vous? Simplement parce qu'il n'y a, dans le vaste monde, nulle autre personne vers qui je puisse aller. Comprenez-vous ce que je dis? Personne vers qui aller. Concevez-vous la désolation de cette pensée? Personne vers qui aller. La jeune fille, totalement trompée par son interprétation enthousiaste des deux lignes d'une lettre de visionnaire, poussée par la crainte de jours solitaires, dans un monde assombri par les luttes ardentes, n'arrivait pas à voir la vérité qui luttait pour sortir de la bouche de Razumov. Ce dont elle avait conscience, c'était de la forme obscure de sa souffrance. Elle se préparait à lui tendre la main en un geste impulsif lorsqu'il éleva la voix à nouveau. « Une heure après vous avoir vu, j'ai compris ce qu'allait être ma vie, les terreurs du remords, les aveux, la vengeance, la colère, la haine, la crainte, ne sont rien à côté de la tentation atroce que vous avez mise en mon être, au jour où vous m'êtes apparu, avec votre voix, avec votre visage, dans le jardin de cette villa maudite. » Elle eut vers lui un regard éperdu, puis tout à coup, avec une sorte d'intuition désespérée, elle alla droit au fait.
« L'histoire, Kirillo Sidorovitch, l'histoire !»«
Il n'y a plus rien à dire. » Il fit un pas en avant, et elle posa la main sur son épaule pour le repousser. Mais la force lui manqua, et le jeune homme resta en place, tremblant de la tête aux pieds. L'histoire finit ici, en ce lieu même. Il appuya avec force un doigt dénonciateur sur sa poitrine, puis garda une immobilité absolue. Je me précipitai, saisissant une chaise,
et pus arriver à temps pour recevoir Mademoiselle Aldine dans mes bras et l'y laisser doucement tomber. En s'affaissant sur le siège, elle fit un demi-tour sur elle-même et resta affalée, la tête penchée au-dessus du dossier, nous tournant le dos à tous les deux. Razumov la regardait avec une impassibilité effrayante. L'incrédulité, la colère, la stupeur et le dégoût m'empêchèrent un instant de proférer une parole. Puis je me tournai vers lui avec un murmure de rage. « Voilà qui est monstrueux! Pourquoi restez-vous là? Qu'attendez-vous? Qu'elle ne vous voit plus? Allez-vous-en !» Il ne bougeait pas. « Ne comprenez-vous pas que votre présence est intolérable, même pour moi, si vous avez gardé le moindre sentiment de pudeur ?» Ses yeux mornes se tournèrent lentement vers moi. « Comment cet homme-là est-il ici ? » murmura-t-il stupéfait. Brusquement, Mademoiselle Aldine bondit sur ses pieds, fit quelques pas et chancela. Oubliant mon indignation et la présence même de Razumov, je courus à son secours. Je la saisis par le bras et elle se laissa conduire dans le salon. Loin de la lampe, dans l'ombre plus dense d'un coin reculé, le profil de Madame Aldine, ses mains, sa personne tout entière, avait l'immobilité d'un tableau sombre. Mademoiselle Aldine s'arrêta et me désigna douloureusement la mère impassible et tragique qui semblait contempler une tête chérie posée sur ses genoux. Cette attitude avait une puissance d'expression inégalable et disait si bien toute l'humaine détresse qu'on avait de la peine à y voir le seul résultat d'institutions politiques barbares. Après avoir mené Mademoiselle Aldine jusqu'au canapé, je revins sur mes pas pour fermer la porte. Mes yeux tombèrent sur Razumov, qui, encadré dans l'embrasure, debout devant la chaise vide, immobile sous la lumière blafarde de l'antichambre blanche, paraissait rivé pour toujours au lieu de son horrible confession. Je m'étonnai que la force mystérieuse qui lui avait arraché son aveu n'eût pas en même temps brisé sa vie et détruit son corps. Il restait là tout entier, intact. Je regardai fixement ses larges épaules, sa tête sombre, l'immobilité stupéfiante de ses membres. À ses pieds tranchait en noir intense, sous la blancheur crue de la lumière, le voile échappé à Mademoiselle Aldine. Il le regardait comme fasciné. Puis, brusquement, avec une prestesse incroyable et sauvage, il se baissa pour le saisir et le presser des deux mains contre son visage. Je sentis mes yeux s'embrumer, du fait peut-être de mon extrême étonnement, et il avait disparu avant que je ne lui eusse vu faire un mouvement. Le bruit de la porte d'entrée, violemment refermée, éclaircit ma vision, et je contemplai la chaise vide dans l'antichambre nue. La signification de ce que je venais de voir se faisait jour brutalement dans mon esprit. Je saisis Nathalie Aldine par l'épaule. « Le misérable a emporté votre voile, » criai-je avec l'accent sourd et épouvanté de l'homme qui vient de faire une horrible découverte. « Il... » Je n'en dis pas plus long. Je reculai en fixant sur elle un regard d'horreur silencieuse. Ses mains restaient ouvertes sur ses genoux, la paume en l'air. Elle leva lentement ses yeux gris, où des ombres semblaient passer, comme si la flamme toute droite de son âme s'était mise enfin à vaciller, sous des souffles délétères, souffles venus de l'immensité, sombre et corrompu, qui la réclamait comme une de ses enfants, et où les vertus mêmes se transformaient en crimes, sous l'empire d'un égal cynicisme dans l'oppression et dans la révolte. Il est impossible d'être plus malheureuse. Le murmure languissant de sa voix me frappa de stupeur. C'est impossible. Je sens que mon cœur se glace.